Place Info.
Bonsoir à la une, la mobilisation nationale après l'immolation d'un étudiant. La controverse sur Roman Polanski, un hashtag MeToo des territoires en vue des élections municipales. Faut-il interdire les listes communautaristes aux élections ? Pudibonderie et hypocrisie, ces mots d'Emmanuel Macron qui accuse ceux qui refusent ses critiques sur l'OTAN, c'est dans Les Informés avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, avec Aurélie Motta-Rivet, présidente de Sociétaire Paris, membre du conseil du think tank Europa Nova, vice-présidente de l'Association française pour les Nations Unies, maître de conférence à Sciences Po. Il vous reste du temps pour venir aux informer. Et avec Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, enseignant à Sciences Po. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Un jeune de 22 ans qui s'immole par le feu parce qu'il n'a plus les moyens d'étudier et de vivre. Cela s'est passé à Lyon, France, 2019. Les jeunes se sont mobilisés dans une quarantaine de villes aujourd'hui pour lui rendre hommage et réclamer plus de moyens. La situation a de quoi inquiéter Orlane François qui préside la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, sur France Info ce matin.
Il faut dire un chiffre qui est assez marquant, c'est aujourd'hui 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté en France en 2019. Et aujourd'hui, je pense que ça fait des années qu'on dénonce cette situation et on en est venu à un moment donné où des étudiants, et c'est pas la première fois malheureusement, essayent ou attendent à leur jour parce que c'est plus vivable et parce que c'est trop dur pour eux. Et donc il faut qu'il y ait un sursaut très rapide du gouvernement sur ces questions. Et il faut réformer le système des bourses, c'est ce qu'on propose depuis des années maintenant, puisque le modèle est dépassé et surtout inégalitaire. Et puis que le gouvernement arrête d'afficher une certaine priorité aux jeunes, alors qu'à côté de ça, il y a des mesures qui vont dans le mauvais sens, comme il y a un an maintenant, les APL qui ont été amputées de 5 euros par mois, donc les aides au logement, les bourses qui n'ont pas été augmentées depuis maintenant 5 ans. Alors on a eu cette année une augmentation de 1%, mais qu'est-ce que c'est 1% alors que ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on n'avait pas touché au montant. Donc voilà, il faut aujourd'hui sortir les jeunes de cette précarité et faire en sorte que plus aucun jeune en France en 2019 ne vive sous le seuil de pauvreté.
Voilà, Albert Zenou, terrible constat, hein, terrible état des lieux. Nous sommes en France.
Oui, on est en France. Alors, je partage pas tout à fait l'analyse qu'a faite la syndicaliste étudiante.
Orlane François, oui.
Alors, effectivement, pour ce qui est du jeune qui s'est immolé, c'est regrettable, c'est atroce quand un jeune en arrive s'immoler comme ça, c'est terrible. Alors, ça s'ajoute à ça sans doute des problèmes personnels. Alors, on parle de bourse, et il se trouve que en l'espèce, ce jeune avait triplé la deuxième année. Donc, c'est un point de vue purement légal. Il ne peut pas toucher une bourse en triplant. Enfin, à un moment, il faut. Alors, il était syndicaliste. Et il a préféré son action syndicale plutôt que de travailler ses cours. Ouais. C'est un choix. Mais après, il faut l'assumer. Maintenant, la situation des étudiants en France, elle n'est pas facile, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus terrible. Le système des bourses, même s'il est imparfait, il offre quand même la possibilité à beaucoup de gens de faire des études. Moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais étudiant, donc faut pas non plus faire croire que en France tout est pourri dans le système et dans l'État.
Il y a quand même une réelle précarité. C'est vrai que le jeune Anas qui est entre la vie et la mort avec un corps brûlé à 90%, c'est vrai que c'est dramatique et il y a peut-être en effet d'autres soucis liés à cette action, mais il y a quand même 54% des étudiants qui sont touchés par la précarité et ce sont 54% dans les classes les plus populaires. Parmi ceux-là, il y a 17% des gens qui sont obligés de travailler et qui ont des notes absolument défavorables parce qu'ils sont obligés de travailler. Il y a aussi à côté une prostitution qui est liée aussi au fait qu'on n'a pas forcément l'occasion de payer ses études. On ne peut pas comparer avec les États-Unis où ça coûte 45 000 dollars par an et nous, c'est une licence, c'est 200 euros.
C'était le sens de la suite de mon intervention. question, c'est que
oui,
en
je
France,
comprends, je savais que vous alliez aller vers ça.
Bah oui, mais elles sont quasiment gratuites.
C'est quasiment gratuit, mais ça n'est pas suffisamment gratuit pour qu'il y ait suffisamment. Il y a une précarité incroyable et la vie étudiante a augmenté en 2018 de 1,838 euros et parfois ils n'ont que 100 euros pour manger et pour avoir le logement et le transport. C'est beaucoup, c'est pas un fantasme.
Suite du tour de table avec Bruno Cotresse. Oui, si un étudiant sur 5 quand même sous le seuil de la pauvreté, ça c'est réel.
Bah oui, c'est à la fois réel, c'est consternant pour un pays riche comme le nôtre et qui surtout ne cesse de dire qu'il faut mettre au cœur de tout l'enseignement, l'innovation, le développement, la recherche. Donc effectivement, si on essaye de prendre le recul en dehors de ce cas dramatique, effectivement, on voit qu'il y a un contraste entre l'augmentation des effectifs étudiants qui lui continue et puis le budget total de l'enseignement supérieur ou le budget par étudiant qui lui, après avoir augmenté, mettons jusque dans les années 2013-2014, a soit été stabilisé, soit légèrement diminué même. Et donc les courbes de ce point de vue-là ont commencé à diverger quand même depuis quelques années. Si on essaie de prendre même encore un peu plus de recul, de parler de l'ensemble des moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche, où effectivement il y a quand même beaucoup de moyens qui sont consacrés, mais on est encore loin d'un objectif qui avait été affiché de 1% du PIB consacré aux dépenses civiles publiques de recherche il y a quelques années. Si on prend encore un peu plus de recul et qu'on parle aussi de la situation des universitaires, de développement de l'emploi précaire dans l'enseignement supérieur qui est quand même relativement important aujourd'hui, donc on voit qu'il faut essayer de se servir de ce cas dramatique pour prendre un peu de hauteur et commencer à réfléchir.
Aurélie Motta, arrivée, vous pensez qu'il y a une marge de progression aujourd'hui en ce qui concerne nos étudiants en France ?
Je crois que cette situation dramatique, d'abord, je crois qu'il faut rappeler l'émotion et on comprend la solidarité des autres étudiants. Je ne sais pas si vous avez lu le courrier, mais c'est quand même extrêmement poignant. Ça met un coup de projecteur très fort sur un enjeu majeur de société qui est un accès équitable à une éducation de qualité. Et ça, c'est quand même la clé de voûte de tous les autres sujets, j'imagine, qu'on va aborder ce soir. Oui. Le développement durable, enfin l'ensemble des sujets. Donc c'est vraiment majeur et c'est vrai que dans un pays comme la France, c'est quand même assez étonnant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je crois que ça révèle plus largement une forme de détresse ou en tout cas d'anxiété des nouvelles générations par rapport aux défis qui sont devant nous. Le défi climatique, on l'a vu, les nouvelles générations sont particulièrement attentives à ce sujet, mais aussi le défi démographique, le défi climatique. Donc il y a une vraie anxiété et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une perte de repères politique. On voit qu'il y a de plus en plus d'abstention. Ouais. Donc il y a tout cet écosystème-là qui rend ce sujet très complexe.
Alors quelle est la réponse du gouvernement ? Eh bien, vous le saurez dans un instant, juste après, à 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Victor Vasseur.
Christophe Castaner, au chevet des sinistrés du tremblement de terre en Ardèche. Le maire d'Utey, ville la plus touchée par le séisme, ému aux larmes lorsque le ministre lui demande comment il se porte. L'État se mobilisera totalement, Premier le ministre. L'inspection générale de la gendarmerie nationale saisie après le féminicide dans le Bas-Rhin. Une femme de 40 ans poignardée par son mari. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. La fille de la victime accuse la gendarmerie d'avoir mis trop de temps à intervenir après son appel. Plus d'une tonne de cocaïne échouée sur les plages de la côte atlantique depuis la mi-octobre. Un sac de 5 kilos retrouvé dans le Finistère, une première. Le dernier bilan du procureur de Rennes. Jimmy Carter va mieux. L'ancien président américain de 95 ans opéré après une chute. Une opération sans complications, mais il reste à l'hôpital. Sans majorité depuis les élections législatives de dimanche, le parti socialiste de Pedro Sanchez s'allie avec Podemos. Le chef du gouvernement doit obtenir le soutien de partis minoritaires. Si c'est le cas, ce serait une première depuis les années 70. Et puis le prix de Flore remis ce soir dans le célèbre café éponyme de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il est décerné à Sophia Aouine pour son premier roman. Il s'appelle « Rhapsodie des oubliés ».
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, tout à l'heure dans le 18-50 France Info, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a tenté de répondre à l'urgence.
Les jeunes, c'est la génération, la classe d'âge qui connaît le plus la précarité et c'est aussi celle qui accède le moins à ses droits. Il y a beaucoup de jeunes qui pourraient prétendre à certaines aides et qui, faute d'en avoir connaissance, ne les demandent pas. Vous avez beaucoup d'aides aujourd'hui. Vous avez une aide au mérite, vous avez une aide à la mobilité pour le master, une aide à mobilité dans le cadre de Parcoursup, vous avez des aides à la mobilité
européenne. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Ils ne sont pas renseignés,
vous avez aussi vous avez aussi des aides d'urgence. Et un des éléments qu'on va chercher à éclaircir, c'est comment expliquer que l'université n'avait pas connaissance de la situation de ce jeune qui s'est immolé, parce qu'il existe des aides d'urgence qui peuvent être ponctuelles ou annuelles pour précisément des situations où les jeunes n'y arrivent plus.
Albert Zenou, il y aurait donc des aides à disposition des étudiants dont ils ignoreraient tous.
C'est souvent une tactique, une stratégie de communication du gouvernement, de dire bah, finalement, c'est un peu de votre faute, puisque il y a des choses.
Ils sont sur la table.
Ils sont sur la table, tout est là.
Vous ne regardez pas au bon endroit.
On a fait les choses dans le bon sens, on a fait les choses dans le bon endroit. Et puis, à vous de demander, et puis on vous donnera. En l'espèce, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La précarité, bon, on l'a vu, c'est bien réel. Il ne suffit pas de dire ça existe. Encore faut-il le faire savoir, et bien le faire savoir. Oui. Si oui. Ça existe vraiment.
Yasmina Jaffa.
En effet, il y a un déficit d'information. Et pour revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le cadre général de l'université dans l'absolu qui est dramatique. Et je pense que ça a commencé dans les années 80 sous François Mitterrand, privilégier plutôt le privé que le public, et de faire en sorte que les facultés aujourd'hui soient absolument bondées. On sait qui va être étudiant l'année prochaine, c'est comptable en fait, c'est assez facile, et rien n'est fait pour qu'il y ait plus d'universités, en tout cas plus de place dans les amphis. Les amphis sont parfois pour 100 ou 200 personnes et on y rentre à 400. Donc c'est une façon de travailler qui est précaire. La précarité des étudiants, elle est là et elle existe. Au niveau du logement, je disais tout à l'heure, au niveau du transport, ça coûte très cher, mais quand en plus on va travailler et qu'on est assis par terre, ça aide pas à vouloir aller chercher en plus des informations sur les aides. À l'État d'informer les étudiants pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions.
Les universités organisent ce système un peu morbide, puisqu'on sait très bien que les étudiants ne restent pas. C'est toute la difficulté de ce système mortifère, où on sait que il y a 100 étudiants inscrits en première année et au bout de 2 mois, bah, ils sont plus que 50. Et alors, ça c'est pas organisé, ouais. Mais ils le savent, donc ils ne veulent pas ouvrir de vos amphis parce que on sait qu'il y a une déperdition totale.
Pour boucler le sujet avec vous, Bruno Cotterêts, notamment l'extension aux étudiants du fameux revenu universel d'activité qui est promis par Emmanuel Macron. Vous pensez que ça va avoir le jour cette histoire?
Je suis pas certain que ça verra le jour très rapidement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un enjeu qui est très important. Moi, j'ai des étudiants à Sciences Po qui viennent d'autres pays, par exemple de l'Europe du Nord, et qui disposent d'un revenu comme étudiant. Donc cette question, elle doit quand même être posée. Alors, pour compléter le tableau, il est vrai que l'ensemble du système français d'enseignement supérieur est en profonde mutation, transformation depuis 20 ou 25 ans. Je crois que je connais mon secteur professionnel en chantier permanent. Cette problématique de l'intégration des étudiants a fait l'objet de multiples réformes, de multiples solutions qu'on a essayé de mettre en œuvre. C'est très compliqué parce que les effectifs sont là. C'est une bonne chose pour notre pays de voir que la jeunesse s'engage dans l'éducation, évidemment, mais c'est vrai que ça appelle des moyens qui sont des moyens extrêmement conséquents et peut-être pas seulement des moyens en termes de bourses, etc., mais des moyens un peu plus généraux sur l'accueil des étudiants, sur les structures d'accueil et de pédagogie.
Allez, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir, hein, pour l'instant, dans cette demande très forte des étudiants de France d'un changement de système. C'est l'autre une des informés ce soir. Peut-on aller voir le J'accuse de Roman Polanski qui sort dans les salles de cinéma demain, tout en faisant abstraction et bien de la nouvelle accusation de viol dont le réalisateur fait l'objet, avant d'évoquer cette controverse, faisant un détour en direct à Paris devant le cinéma Le Champeau. C'est dans le 5e arrondissement avec vous, Justine Leclerc de France Info. Bonsoir Justine.
Bonsoir.
Il y avait une manifestation prévue pour une avant-première de ce film.
Il y a en effet toujours une manifestation depuis 19h30. Une quarantaine de militantes féministes, tout de noir vêtues, bloquent l'entrée du cinéma Le Champeau pour empêcher cette avant-première du film J'accuse de Roman Polanski. Voilà ce qu'elles scandent.
Polanski, violeur, public, complice, Polanski.
Voilà, les militantes qui tiennent aussi dans leurs mains des pancartes. On peut lire « Violence sexuelle, réalisateur de cinéma complice ». Le groupe de femmes veut donc empêcher ce soir la projection en avant-première. Mais certaines veulent aussi interdire la sortie du film de Polanski. Les spectateurs qui sont là pour aller voir le film, eux, assistent à cette action. Certains sont dubitatifs et pensent qu'il faut faire la part des choses entre le réalisateur et les accusations de viol. Les femmes qui participent ce soir à cette action ne se revendiquent d'aucune association, disent-elles, et elles viennent d'être en ce moment rejointes par des étudiants qui manifestent justement contre la précarité, votre sujet précédent.
Merci à vous en tous les cas, Justine Leclerc, en direct du cinéma Le Champeau à Paris, avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Aurélie Motarivet, vous comprenez l'émotion que suscite la sortie de ce film, qui en plus, de façon paradoxale, est censé venir voler au secours de la laïcité en France.
La question, c'est est-ce qu'il faut confondre l'artiste et l'œuvre? En fait, je crois que c'est la question que cela pose. C'est une question quasiment philosophique et juridique. J'aurais pas la prétention d'y répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de communication, évidemment, les deux sujets sont liés et l'émotion, évidemment, est liée entre l'œuvre et l'artiste. C'est difficile de faire la différence. Après, tout ça s'inscrit aussi dans un contexte de débat public très particulier, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est du cinéma qu'est parti MeToo. Et le détonateur a été réenclenché la semaine dernière par les déclarations d'Adèle Haenel. Donc, on est vraiment dans un contexte de débat public très sensible. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est à la justice qu'il appartient de décider de tout cela et que chacun des citoyens, quelle que soit son exposition médiatique, doit bénéficier d'une présomption d'innocence.
Alors, il y a eu le témoignage, Yasmina Jaffar, publié par Le Parisien, c'était en fin de semaine, de la photographe Valentine Monnier, qui dit avoir été rouée de coups et violée par le cinéaste en 75. Elle n'avait que 18 ans, accusation que nie Roman Polanski. Très difficile de passer à côté de ce témoignage.
Très difficile. J'ai regardé une archive aujourd'hui de 1976 où Roman Polanski expliquait qu'aux États-Unis, avant 18 ans, nous sommes un criminel si nous avons une relation sexuelle avec une femme de moins de 18 ans ou un homme de moins de 18 ans. Mais il avait le ton de l'impunité totale. C'était un an donc avant les dires de Valentine Meunier. Et aux États-Unis, il y a deux ans, il y a eu en effet l'affaire Weinstein. Très rapidement, le monsieur mastodonte absolument puissant s'est fait retirer de partout. Kevin Spacey a suivi le même sort très rapidement. Et en France, on a mis deux ans pour prendre conscience d'eux. Et ça a commencé avec Adèle Haenel. Et ça a permis aujourd'hui à Valentine de parler. Mais on se rend bien compte que la façon dont ça s'est passé aux États-Unis a été beaucoup plus virulente, parce que c'est peut-être un pays plus puritain. Mais aujourd'hui, ici, il y a une forme d'omerta absolue au niveau du cinéma. Et ça existe depuis très longtemps. Et il y aura peut-être d'autres actrices qui, en avalanche, vont dire ou pas. Mais il y a une incapacité aussi à dire, parce qu'elles sont dans le désir du réalisateur et ça se confond entre ce qu'elles sont en tant qu'artistes et ce qu'elles sont en tant que femmes victimes. Et ça met beaucoup trop de temps dans ce pays pour que ça existe. Ça va, voilà, pourvu que ça avance un peu plus.
Nous restons sur ce sujet. Le J'accuse, Roman Polanski dans la tourmente, après le rappel de l'info à 20h20 sur France Info. Victor Vasseur.
La mise en examen pour meurtre sur conjoint d'un homme de 58 ans dans le Bas-Rhin, le mari emprisonné, c'est lui qui a appelé les gendarmes pour annoncer la mort de sa femme. Christophe Castaner rencontre des pompiers à Montélimar. Discussion avec des sinistrés du tremblement de terre au Teil. Le ministre de l'Intérieur en visite en Dromardèche pour constater les dégâts. Il assure l'engagement total de l'État pour les reconstructions. Plus d'une tonne de cocaïne récupérée sur les plages de la façade atlantique. Précision du procureur de la République de Rennes. Des sacs de drogue s'échouent sur les côtes depuis la mi-octobre. En récupéré est passible de 10 ans de prison. Des livres jetés sur François Hollande à Lille, puis déchirés. Des étudiants envahissent un amphithéâtre de la faculté de droit. La conférence de l'ancien président annulée. Cette manifestation intervient car un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon vendredi dernier. Deux Palestiniens tués dans de nouvelles frappes israéliennes. Plus tôt dans la journée, l'armée avait déjà tué un haut commandant du djihad islamique à Gaza. Une attaque suivie d'une réplique des tirs de plusieurs roquettes de l'armée palestinienne sur Israël. Et puis la victoire et l'espoir pour Roger Federer au Masters de Londres de tennis. Victoire contre Matteo Berrettini. Le Suisse peut toujours espérer se qualifier pour les demi-finales. Ce soir, Novak Djokovic affronte Dominic Thiem.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
En écho, j'accuse de Roman Polanski, oser le féminisme, publie aujourd'hui sur Mediapart, nous accusons l'association féministe, un reproche au cinéaste de se servir eh bien, de l'affaire Dreyfus pour réécrire sa propre histoire. Coralie Miller, auteur, autrice et metteuse en scène, co-signataire de La Tribune, elle s'en est expliquée sur France Info.
Ce que nous accusons avant tout, c'est l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que Roman Polanski se met désormais dans les habits de Monsieur Dreyfus, considérant qu'il est aujourd'hui victime, aujourd'hui et depuis 40 ans, victime d'une cabale, victime d'une manipulation de la part d'inquisitrices qui sont les femmes, à la fois ses victimes potentielles et celles qui tentent de les défendre et d'aider leur voix à porter. Et c'est ça surtout que nous accusons. Il dit très clairement que lui-même donc connaît la persécution et quand il déroule le fil de cette persécution qu'il connaît, on en vient toujours aux femmes qui donc le persécutent depuis 40 ans comme à l'époque les antisémites persécutaient Alfred Dreyfus. Autant vous dire que pour moi qui suis issue d'une famille juive particulièrement touchée par la Shoah, ça me heurte d'autant plus.
Albert Zenou, est-ce que le cinéaste instrumentalise la thématique du film à des fins personnelles ?
Ça, je ne sais pas. Je suis pas dans la tête de Roman Polanski pour savoir s'il avait prévu en faisant son film J'accuse de se mettre un peu
d'inverser la charge
et d'inverser la charge. En tous les cas, enfin donc ça je pourrais pas me prononcer. Mais une chose, moi je suis très gêné au-delà du fait que les victimes sont les victimes et je reconnais tout à fait le statut des victimes. Moi ce qui m'embête dans cette histoire un peu hein, non plus je suis pas non plus offusqué, c'est que on reproche à Roman Polanski des choses qui sont dont les faits sont prescrits et sans passer par la justice. Moi, je crois beaucoup à la justice et aux lois de la République. C'est compliqué. Adèle a condamné,
fait condamner. Roman Polanski quand même fuit la justice américaine.
Oui, voilà, c'est son histoire. Il a été condamné. C'est
vrai, il a été condamné aux États-Unis.
Il a admis en 1976, dans ce que je disais tout à l'heure, l'archive de façon très tranquille. Et ensuite, il a fui. Quand
oui,
même.
Oui, oui. Alors après,
et en France, le cinéma l'a laissé exister elle, en le produisant.
1975. Mmh. Alors, je sais que c'est un argument que beaucoup développe. Ça fait un paquet de temps quand même que elle aurait pu porter plainte. Alors, ça me gêne toujours. Oui. Alors, je sais très bien que c'est compliqué. Oui. Je sais que c'est pas facile pour une femme toujours de parler.
Voilà. Mais il y a depuis deux ans, on en parle tellement.
Bien sûr. C'est un peu gênant. Je trouve que c'est un peu gênant.
C'est vrai que c'est compliqué, mais je trouve que globalement, les associations féministes ou qui militent contre les violences faites aux femmes ont bien raison de se servir d'un cas de figure comme celui-ci pour prendre la parole. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une très bonne chose. Si ça peut continuer à faire progresser la lutte contre ces abus de pouvoir, parce que c'est fondamentalement de la volonté de puissance sur les autres et de l'abus de pouvoir dont tout ceci parle, c'est une très bonne chose. C'est une autre histoire de savoir s'il faudrait ou pas empêcher Roman Polanski de réaliser des films et nous, spectateurs, de les voir. C'est une toute autre problématique. Mmh. C'est vrai que si les œuvres d'un artiste dont le comportement personnel est délictueux ou criminel, mais si l'œuvre ne fait pas l'apologie du crime, on voit pas très très bien sur quel motif on pourrait l'empêcher. Mais c'est pas forcément, d'ailleurs, le cœur du sujet. Là où c'est un peu plus ambigu, je termine là-dessus, là où c'est un peu plus ambigu, c'est si éventuellement l'artiste s'en servait pour mettre de lui-même et de la cause, se mettait en scène d'une certaine manière à travers son œuvre, comme quelqu'un victime d'une machination. C'est ça le cœur.
Et on en revient à la question initiale posée par Aurélie Motarivé. Peut-on dissocier l'œuvre de son auteur? Pour boucler cette réflexion, je propose de réentendre les arguments de Christian Estrosi, qui avait reçu le cinéaste dans sa ville, le maire. Les Républicains de Nice était l'invité de France Info ce matin.
J'ai accueilli Roman Polanski. Ça n'est pas parce qu'il est accusé aujourd'hui qu'il est coupable. Ses sorties sont assez rares. Il est venu faire honneur à ce festival Ciné-Roman à Nice et c'est un film absolument extraordinaire. Au moment où nous parlions des étoiles jaunes dans les manifestations, je recommande à beaucoup d'aller voir ce film parce que il rappelle hélas de quoi notre pays est capable du pire à des moments de son histoire. C'est à lui de savoir comment il doit assurer sa défense, mais en tout cas, moi, je ne me rangerai pas du côté de ceux qui lance la Lali comme cela, c'est trop facile. Il y a une présomption d'innocence qu'il faut respecter dans notre pays.
Yasmina Jaffari, il faut dissocier ou pas ?
Vous disiez, ça va être compliqué de répondre. Avec Céline, avec Bertrand Cantat, avec Woody Allen, c'est compliqué de répondre. De toute évidence, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dire que le film est super et en faire la promotion à la place d'un Jean Dujardin qui a annulé toute sa promotion, très bien, libre
seul,
à Monsieur Estrosi, mais libre aussi aux femmes de parler quand elles le peuvent. Et après, la justice, évidemment, fera son travail.
En tous les cas, Aurélie Motarivé, le trouble dans le monde du cinéma est vraiment palpable. Hein. Il nous reste très peu de temps. Annulation de tournée promotionnelle et puis une hésitation à toutes les corporations et bien d'émettre un avis sur la question.
Je crois que, on risque de me répéter, la libération de la parole sur ces sujets de dérives sexistes et de violences faites aux femmes, elle est majeure. Enfin, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord ici. Mais il ne faut pas non plus mélanger tous les sujets. Et je pense que la justice doit aussi faire son travail. Elle a un rôle dans cette situation. Mais on peut comprendre l'émotion. Encore une fois, c'est très complexe puisque l'artiste et l'œuvre sont très difficiles à distinguer sur le plan de l'émotion et de la communication.
Voilà, et dans un instant, dans la deuxième partie des Informés de France Info, nous évoquerons cette initiative, cet appel à un hashtag MeToo dans les territoires. On se retrouve dans une poignée de minutes après le rappel de la météo et de l'info pour la suite des Informés de France Info.
Implantée en Amérique latine, notre entreprise valorise les déchets en énergie. Luna, notre ingénieur environnement en VIE, peut vous en parler.
Si, aquí utilizamos tecnologías innovantes. Ah pardon. Et ici, nous utilisons des technologies innovantes et dans un contexte multiculturel en plus.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France peut vous aider à sourcer de jeunes talents motivés à l'international.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659.
Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions, avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Moins d'averses demain sur le nord-est jusqu'au Lyonnais, ce sera gris avec quelques gouttes ou quelques flocons sur le relief. Parfois un peu de brouillard le matin. De la Méditerranée aux Alpes, la matinée sera ensoleillée. Les nuages s'imposeront autour de la vallée du Rhône l'après-midi. Le vent soufflera encore jusqu'à 70 km à l'heure. Entre les pays de la Loire, le centre, le massif central et le sud-ouest, beaucoup de nuages. Ça s'éclaircira l'après-midi, on retrouvera un ciel plus lumineux. Près des Pyrénées, en revanche, ça restera gris avec de la pluie, de la neige en montagne. Au nord de la Seine, en région parisienne, et sur la Normandie, encore quelques averses avec des éclaircies plus belles l'après-midi. Et puis sur la Bretagne, de nouvelles pluies s'inviteront dans l'après-midi. Il fera parfois un peu plus frais, moins 2 à 4 degrés le matin, 3 à 8 sur le tiers sud. L'après-midi, 6 degrés à Metz et Aurillac, 9 à Lille, Paris, Lyon, Limoges, 11 à Rennes et Toulouse, 13 à Marseille et 17 à Nice.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Après le séisme d'hier, les habitants du Teil en Ardèche commencent à panser leur plaie, à constater les dégâts. Encore sous le choc de cette secousse éclair d'une puissance sans équivalent en France depuis 16 ans, le tremblement de terre a provoqué de nombreux dégâts. Christophe Castaner est sur place ce soir. Le ministre d'Intérieur avait auparavant dans la journée promis devant l'Assemblée que l'État se mobiliserait totalement dans le processus de reconstruction en Ardèche. Par ailleurs, un léger séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle de Richter s'est lui produit en début d'après-midi près de Strasbourg, sans dégâts majeurs ni blessés signalés. C'est la marée blanche sur les côtes françaises. Depuis des semaines, plus d'une tonne de ballots de cocaïne s'est échouée sur le littoral, des plages des Landes jusqu'à celle du Finistère. Camaret-sur-Mer aujourd'hui, en passant par la Vendée et la Loire-Atlantique notamment. C'est le parquet de Rennes qui dirige l'enquête. Le procureur Philippe Astruc a fait un point sur la situation tout à l'heure.
Sur l'existence de ce trafic qui arrive en Europe par voie maritime, c'est quelque chose de bien identifié par les services d'enquête. Là, ce qu'il y a d'un petit peu plus exceptionnel, c'est évidemment la dissémination en mer de ce produit et l'arrivée assez importante de ces produits tout au long du littoral atlantique français. Donc ça, c'est assez exceptionnel, heureusement. Chaque marée amène son lot de produits, d'une centaine de kilos par jour sur l'ensemble du littoral. Donc je n'exclus pas que pendant quelques jours encore, il y ait des arrivées sur le littoral. Il y a une centaine d'enquêteurs qui est mobilisés sur cette affaire. On s'intéresse bien sûr aux flux maritimes qu'il y a pu avoir, notamment au mois d'octobre, puisque l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est un délestage accidentel ou volontaire pour prévenir un contrôle qui se serait déroulé à la mi-octobre, vraisemblablement, puisque les premières arrivées sont situées au 18 octobre.
Le procureur de Rennes, Philippe Astruc. Le gouvernement temporise sur le sujet. explosif du travail de nuit dans les commerces alimentaires. L'exécutif annonce une concertation tout en retirant l'article contesté qui devait être présenté dès demain au Conseil des ministres. Article qui permettait aux supermarchés et supérettes d'ouvrir jusqu'à minuit grâce à des dérogations. Evo Morales est au Mexique où il a obtenu l'asile et après un périple en avion, plusieurs pays ayant empêché le survol de leur territoire ou de s'y approvisionner en carburant. Après sa démission avant-hier, l'ex-président bolivien se disait menacé dans son pays. Après une dizaine de jours de grève générale et de manifestations, le Sénat en Bolivie doit maintenant désigner le chef de l'État par intérim. De nouveaux affrontements entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre à Hong Kong. La police qui lâche du terrain, les heurts ont éclaté dans le quartier des affaires et pour la première fois sur différents campus de l'ancienne colonie britannique. En Australie, des dizaines d'incendies attisés par des vents violents atteignent désormais la banlieue de Sydney et son agglomération de plus de 5 millions d'habitants. Les feux sont favorisés par des températures caniculaires et une végétation sèche. Il est 20h33 sur France Info, les informés.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilé.
La deuxième partie des informés de France Info avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, avec Aurélie Motta-Rivet, présidente de Sociétaire Paris, membre du conseil du think tank du cercle de réflexion Europa Nova. Vous êtes la vice-présidente de l'Association française pour les Nations Unies, on va en parler, maître de conférence à Sciences Po, avec Bruno Cotterès, mon vieux complice également, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, enseignant à Sciences Po. Alors, plus de 250 personnalités appellent à un hashtag MeToo des territoires. On va vous dire ce que c'est. Dans une tribune publiée sur franceinfo.fr, aujourd'hui, à quelques mois des élections municipales, les signataires, militent pour que les partis puissent constituer leur liste ville par ville en écartant les candidats sexistes et responsables de violence. Fiona Texer, elle est ancienne secrétaire générale du groupe écologiste au Sénat et co-signataire de l'appel.
La tribune MeToo des territoires, elle propose aux femmes qui ont été victimes de violences sexuelles commises par des élus locaux de témoigner des faits dont elles estiment avoir été victimes aux partis de leurs agresseurs. Et la tribune demande également aux partis politiques de faire preuve d'écoute de ces femmes, de ces victimes de violences, afin de prendre connaissance des faits dont elles parlent, de mener des enquêtes internes et de pouvoir établir des listes pour les municipales en toute connaissance de cause. Donc en fait, cette tribune, elle demande aux partis politiques de faire œuvre de prévention dans la constitution de leur liste. Donc ce qu'on demande, c'est aux partis politiques de mettre en place des structures pour écouter les victimes.
Fiona Texer sur France Info. Yasmina Jaffar, il faut faire ce grand ménage selon vous?
Sur le sujet précédent, on parlait justement de la place de la justice et même si la parole des femmes est un peu plus libérée depuis 2 ans et on s'en félicite et on continue à l'encourager, là, faire des enquêtes internes, quelle est la légitimité? Michel Serres écrivait qu'il fallait notre légitimité existait par notre compétence. La compétence est celle de la justice, celle de la police, et peut-être se substituer à elle pourrait permettre une forme de délation. Puis comme c'est dans le cadre des municipales, peut-être qu'il y a des règlements de compte, ça peut être un peu compliqué. Là, ça peut être un peu compliqué, la parole de quelqu'un contre quelqu'un. Alors là, ce qui est dit aussi dans la tribune, c'est que c'est le souhait, c'est que ces paroles soient anonymes le temps de l'enquête, et qu'ensuite, quand ça avance, qu'il y ait réellement une instruction...
Un peu court pour les municipales, quand même, non?
C'est très, très court. C'est très, très court. Donc, il faut faire attention avec ces MeToo qui naissent de partout, parce que ça peut être dévoyé et un peu utilisé à des fins politiques.
Bruno Cotterès, vous y voyez-vous également une limite dans l'exercice?
Ambigu, je trouve que globalement, la cause me paraît globalement relativement juste ou assez juste. C'est-à-dire que l'idée que dans les conseils municipaux ou dans les assemblées élues, on essaye d'éviter que s'y retrouvent des personnes qui auraient eu des comportements déplacés, qui auraient eu des comportements même qui relèveraient pratiquement du délit. Globalement, si on regarde un peu l'objectif, est plutôt un bon objectif. Par contre, est-ce que le moyen est un bon moyen? J'ai été regarder de près le document qui est en ligne
sur franceinfo.fr.
Voilà, donc le document en même temps est assez bien fait. Il propose de choisir les modalités de sa dénonciation, anonyme, pas anonyme. Il donne tout un tas de conseils. il propose d'une certaine manière des paragraphes un peu presque pré-rédigés, etc. Donc on est dans un document qui n'est pas inintéressant, mais avec une grosse problématique qui est derrière, qui est dans quel engrenage tout ceci a
ça vous inquiète un peu
abouti.
Ça vous inquiète un peu, c'est que ça a l'air de vous déranger un petit peu au fond de vous, hein,
non,
quand même, non
je pense non pas. Je pense que c'est une problématique un peu plus générale, que je trouve globalement une bonne problématique, qui est celle d'introduire dans notre vie publique des éléments qui sont des éléments de plus de transparence, que l'électeur sache à qui il a affaire au fond quand il élit quelqu'un. C'est plutôt une bonne chose pour la démocratie. De ce point de vue-là, ça va vraiment plutôt dans la bonne direction. Par contre, il faut que tout ça soit encadré. Effectivement, il y a des risques de règlement de compte politique.
Il faut un encadrement, oui. Albert Zeno, ça peut éviter, pour prolonger ce que dit à l'instant Bruno Cotterêts, les mauvaises surprises après.
Ça pourrait éviter les mauvaises surprises. La difficulté, c'est que qui décide ? Qui décide? Je reviens sur ce que disait Bruno.
Oui.
C'est, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Effectivement, on pourrait que se féliciter de pouvoir d'écarter de listes municipales ou régionales des gens qui ont été condamnés et surtout qui pourraient être condamnables. Toute la différence, c'est ça, c'est le condamné et le condamnable. Quelle autorité a la puissance juridique, la puissance politique pour dire celui-là, effectivement, c'est un harceleur, il a eu des propos ou des actes qui sont répréhensibles, et quel autre ne l'a pas. Et ça laisse ouvert toutes les dérives possibles. Et ça, c'est terrible. Moi, je reviens encore, c'est toujours pareil. Je suis pour le respect de la loi. Ouais. À partir du moment où on a une justice, s'il y a des choses, on porte plainte devant la justice.
Il faut passer par la case justice. Aurélie Motta, arrivé, ce hashtag MeToo vous semble salutaire? Ou est-ce qu'il va un petit peu trop loin?
Je pense qu'il y a eu tellement de dérives sexistes aussi que c'est assez normal que l'effet de balancier aussi soit assez fort.
C'est vrai aussi.
De l'autre côté, donc c'est une forme de rééquilibrage. Et ce qui me paraît intéressant, c'est l'échelon territorial des territoires. Pour moi, c'est le bon échelon.
Qui est assez nouveau.
Oui, et je pense que c'est le bon échelon pour implémenter une transformation et des changements de comportement. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, l'échelle qui est utilisée. Et par ailleurs, ce que je crois, c'est que les élus, de toute façon, doivent être exemplaires. C'est aussi un sujet de confiance dans les élus et dans la démocratie. Donc je crois que c'est très important. Et de toute façon...
Comment le prouver qu'ils ne le sont pas ?
À l'ère de la transparence, de toute façon, je pense que c'est juste une question de temps pour que les affaires remontent. Donc moi, j'y suis plutôt... Enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant.
Et ajouter à tout cela, bien sûr, continuer à donner des outils à la police pour les systèmes d'écoute, parce que c'est de plus en plus performant et tant mieux, et le dialogue et l'éducation au niveau d'échelon, à l'école des enfants, pour que finalement, dans 15-20 ans, on ait affaire à d'autres personnalités et d'autres rapports.
Et ça passe beaucoup par l'éducation.
C'est pour ça que je disais que la cause est juste, parce qu'elle va dans le bon sens d'une vie politique française qui a terriblement besoin à la fois de renouvellement, mais aussi de renouvellement des pratiques, d'exemplarité.
Confiance.
Et de confiance. Le lien de confiance se construit évidemment à cet échelon-là, c'est absolument central. Et reste à voir après, effectivement, toutes les conséquences pratiques, modalités juridique.
C'est sans doute le plus difficile à mettre en place. Allez, 20h40 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Victor Vasseur.
Christophe Castaner dans les rues du Teil en Ardèche, au lendemain du tremblement de terre. L'urgence, ce sont les levées de doutes, le relogement et la rescolarisation des enfants, précise le ministre de l'Intérieur. La préfète de l'Ardèche promet que tout le monde sera relogé d'ici demain. La mise en examen pour meurtre sur conjoint dans le Bas-Rhin d'un homme de 58 ans soupçonné d'avoir tué sa femme. L'inspection générale de la gendarmerie nationale veut savoir comment s'est déroulée cette intervention jugée trop longue par la fille de la victime. Une intervention sans aucun retard, rétorque la gendarmerie sur France Info. Pour mettre fin à plusieurs mois de paralysie politique, le Parti Socialiste et Podemos scellent un accord de principe pour former un gouvernement de coalition. Les élections législatives de dimanche n'ont pas dégagé de majorité. 3 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende pour Pete Doherty, le chanteur britannique condamné par le tribunal de Paris, d'abord arrêté pour possession de cocaïne, puis ivre lors d'une bagarre à Paris. La lutte continue, affirme Evo Morales, l'ancien président bolivien à son arrivée au Mexique, pays où il a obtenu le droit d'asile. Il l'assure, il ne cessera pas de faire de la politique. Et puis, Sophia Aouine remporte le prix de Flore pour son premier roman, Rhapsodie des oubliés, raconte l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans, à la langue bien pendue, au cœur de la Goutte d'Or. C'est l'un des derniers quartiers populaires de Paris.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Killy.
Nous avons besoin de plus de coopération, c'est le mot d'ordre d'Emmanuel Macron. Ce matin, devant une trentaine de dirigeants internationaux réunis en ouverture de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix, le chef de l'État qui a récidivé dans la foulée de son interview à The Economist dans laquelle il avait déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale, s'adressant en des termes, on va dire, peu diplomatiques à ceux qui refuseraient à ses yeux de voir l'inefficacité des organismes internationaux. On écoute Emmanuel Macron.
Le risque qui est collectivement le nôtre, c'est que la tentation réémerge dans nos pays, tous ceux qui se sont exprimés, tous ceux qui sont ici présents, soit au fond de la paresse, premier risque, se dire on a des organisations, on les aime bien, ne les questionnons pas, je pense qu'on a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens le voient, nous sommes dans un monde ouvert. Les experts qui sont ici présents, les citoyens, les activistes, ils voient les conséquences de ce monde-là. Quand ça ne marche plus, ils nous le disent. Donc l'hypocrisie et le silence, c'est pas une solution. Et la paresse intellectuelle ou d'action n'est pas non plus une solution.
Les organismes internationaux ne servent plus à rien, Aurélie Motarivé ?
Eh bien, on risque de vous surprendre, je pense, tout l'inverse. Je pense qu'on a besoin plus que jamais de multilatéralisme. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut le réinventer. Et je pense que c'était le message du président ce matin. Et ce forum de Paris pour la paix, il montre que Paris est aujourd'hui l'incubateur, pour moi, d'une nouvelle gouvernance mondiale. Ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est que c'est l'endroit où on définit une diplomatie des coalitions, où on met tout le monde autour de la table, le public, le privé et la société civile. Il y avait ce matin des représentants, des chefs d'État, des activistes, des entreprises. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que la France, pardon pour un message positif sur ce sujet, mais je l'assume totalement. Hein, oui. Voilà, on n'a pas l'habitude dans les médias parfois, mais voilà, j'y vais avec beaucoup de sûreté
de
sur
conviction.
Ce sujet.
Et de conviction,
allez-y, pardon. Oui. C'est à Paris que se réinvente le multilatéralisme. C'est un multilatéralisme qui met tout le monde autour de la table et ce n'est qu'en alignant les intérêts du public, du privé et de la société civile qu'on relèvera les défis devant nous. Si je prends l'exemple du défi climatique, défi démographique ou quelle que soit l'ampleur des défis, aucun État seul pourra résoudre ce sujet. Et moi, je ne crois pas à l'unilatéralisme.
Ah oui, parce que Bruno Cotteres, il a quand même engueulé un peu tout le monde, là, le chef de l'État, du moins ceux qui ne veulent pas voir que certains organismes, l'OTAN, allez, citons-le, ne servent pas à grand-chose à ses yeux.
Hein. En tout cas, là, on retrouve dans l'extrait que vous avez passé une rhétorique, une manière de présenter les problèmes qui est du Macron pur sucre, on va dire, et qui est non seulement effectivement la question du multilatéralisme à réinventer, mais aussi du vocabulaire d'Emmanuel Macron, il ne faut pas faire preuve de
pudibonderie, hypocrisie.
Il faut regarder les choses en face, les citoyens nous voient, on se rappelle d'Emmanuel Macron au sommet du G7, hyper communicant vis-à-vis des Français, rendant compte, disant aux Français, je vous rends compte de ce qui se passe. Donc on voit un Emmanuel Macron qui est là, dans son, je dirais, dans son précaré, et montrant et déclinant au niveau des institutions, des organisations internationales, globalement, le logiciel qu'il a voulu développer sur le cas français en 2017, c'est-à-dire effectivement l'idée de mettre autour de la table et de se situer, lui, Emmanuel Macron, comme celui qui renoue des fils, qui impulse, qui oblige les gens à se remettre en cause, à se poser les bonnes questions. Donc un Emmanuel Macron, dans l'extrait que vous avez passé, je trouve vraiment...
renoue avec son ADN.
Yasmina Jaffar, c'est d'une sorte de version française de Trump en termes diplomatiques, c'est-à-dire en court-circuit, on dit les choses de façon peu diplomatique, je me répète.
Oui, c'est vrai, mais avec quand même un peu plus de finesse, j'aurais énormément de mal à comparer
une version française,
président à Monsieur Trump. Non, l'outrance de Monsieur Trump reste celle de Monsieur Trump et surtout qu'il la garde que pour
mais
lui.
Mais sur le principe de briser
Macron
les codes de la diplomatie.
Macron est un libéral, a envie que l'entreprise existe, il ne veut pas d'un rendez-vous comme le forum de Munich ou Davos, qui est un rendez-vous purement économique. Il veut en effet mélanger différents secteurs et faire parler évidemment l'incubateur, l'entreprise. entreprises, les projets, l'énergie. Et on a là physiquement quelqu'un qui est à la manœuvre, qui a envie d'exister d'un point de vue européen, mais maintenant d'un point de vue mondial. Et il y va sans faire attention à la douceur de ses mots, mais en même temps, ça lui ressemble. Et il est vraiment, en effet, dans son précaré et très à l'aise parce que, au final, en face, il y a qui ? Voilà, pour pouvoir lui répondre que ça n'est pas vrai.
Albert Zeynoux,
juste l'exemple de la Turquie.
Albert Zeynoux, ce n'est pas vrai. Il a raison de vouloir, de tenter de bousculer le système comme ça.
On a toujours raison de vouloir bousculer le système. Ça, c'est une chose est sûre. Le problème, c'est que, effectivement, en voulant casser les codes, en voulant mettre en avant le multilatéralisme, on voit que le président essaye de contrer les grandes forces avec une espèce de soft power qui est mise en avant. Problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la réalité de la diplomatie et des affaires du monde, on voit que c'est plutôt du côté du hard power, de la force qui gagne. On voit que Poutine, on voit que la Chine, on voit que Trump aux États-Unis, ils imposent leur vue par la force. Ils imposent pas la vue par la discussion. Alors, certes, il faudrait le faire. Et on voit que le sommet de Paris, enfin le forum, l'année dernière, c'est la deuxième édition. L'année dernière, il y avait 70 chefs d'État. Cette année, je crois qu'il y en a 37. On voit que le multilatéralisme, il n'est pas toujours partagé par l'ensemble des acteurs mondiaux.
Aurélie Motte-Arrivé, il marche moins bien ce forum, d'après ce que dit à l'instant Albert Zeynoux.
Je pense qu'il y a eu l'effet de la première édition et puis il y avait en plus les commémorations l'année dernière, donc ça a joué aussi un effet miroir. Il faudra effectivement voir dans le temps. Moi, ce que je trouve très vertueux dans ce modèle, c'est qu'on invente des coalitions alternatives. Il ne s'agit pas pour moi de concurrencer le multilatéralisme et de le compléter.
On voit bien est-ce qu'on ne se paye pas de mots, au fond?
Je ne crois pas qu'on se paye de mots quand...
On a envie d'adhérer à ce que dit le chef de l'État, mais qu'est-ce que cela donne très concrètement?
Très concrètement, ça donne, je vais vous prendre des exemples, des dirigeants d'entreprises qui sont engagés sur la croissance inclusive et qui mettent de l'argent. Ça donne le One Planet Lab qui, sur le climat, apporte des solutions concrètes. Ça donne toute une série d'initiatives qui ont d'ailleurs été présentées avant le G7. C'est d'ailleurs pour la première fois avant un G7 qu'on voit toute la société civile représentée. Il y a eu aussi le pacte pour la mode, enfin toute une série d'initiatives. Pour moi, au contraire, c'est très concret et c'est très orienté solution.
Oui, et sur la sortie, Bruno Cotterêts, du chef de l'État, on avait vu Angela Merkel et Ursula von der Leyen un petit peu agacés par ses propos très critiques envers l'Alliance Atlantique.
Il est dans une séquence, depuis l'après des élections européennes, le rejet de la candidature à la Commission européenne de Sylvie Goulard, on voit qu'Emmanuel Macron est dans une séquence où il a changé de tonalité. Il a dit clairement ce qu'il pensait au fond des institutions européennes. Après l'échec de la candidature de Sylvie Goulard, on peut même dire qu'il n'a pas vraiment caché son opinion et euphémisé. Et on voit que depuis quand même quelques semaines, il y a beaucoup de prises de parole qui sont sur ces questions, qui sont sur des questions à la fois européennes, internationales. Emmanuel Macron, au dernier sommet, a dit qu'il allait à nouveau prendre des initiatives dans le domaine européen. Donc effectivement, il y a un autre agenda que celui de l'acte 2. Il n'y a pas seulement Emmanuel Macron qui dialogue avec les Français, mais il y a un Emmanuel Macron qui met en ce moment le turbo un peu sur les questions internationales.
Mais pour conclure sur cette question, est-ce qu'il a ouvert une boîte de Pandore avec cette interview dans The Economist, sachant qu'il y a une sorte maintenant de différend assez marquant avec la Turquie?
Oui, c'est clair que cette interview a clairement très fortement marqué au plan international, a été beaucoup commentée au niveau de tous nos voisins, de toutes les puissances.
Avec l'Allemagne, quand il remet en cause le principe des 3% de déficit, on voit très bien que c'est clairement une pierre jetée dans le jardin allemand.
En tous les cas, je retiendrai l'optimisme d'Aurélie Motte-Arrivé.
Pour moi, il n'y a qu'un agenda, c'est l'agenda 2030 des Nations Unies, qui est l'agenda partagé par nous tous autour de la table. Par les entreprises, la société civile et les diplomates.
Vous voulez dire que c'est la marche réelle du monde, celle qui nous échappe?
Il me semble qu'il définit assez bien ce qu'il y a devant nous, en tout cas.
Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Victor Vasseur.
Il peut y avoir des répliques importantes dans les prochaines semaines. Un sismologue prévient au lendemain du tremblement de terre en Drôme-Ardèche. Ce soir, Christophe Castaner est à Montélimar. Le ministre de l'Intérieur rencontre des sinistrés qui n'ont plus de maison et des pompiers. Un homme de 58 ans mis en examen pour meurtre sur conjoint, soupçonné d'avoir tué sa femme dans le Bas-Rhin. Sur France Info, la gendarmerie précise que le mari a appelé les gendarmes pour indiquer la mort de sa femme. Est-ce un nouveau pas vers la candidature de Michael Bloomberg à la Maison-Blanche? L'ancien maire maire de New York appelle à battre Donald Trump. Michael Bloomberg s'est enregistré dans l'Arkansas pour participer à la primaire démocrate de cet État. 11 militaires du Tarb blessés, dont deux gravement dans un accident. Leur camion bâché s'est renversé sur leur camp d'entraînement. Un paquet de 5 kilos de cocaïne retrouvé sur une plage de Camaret en Bretagne, c'est une première. En tout, plus d'une tonne échouée depuis la mi-octobre de Saint-Nazaire au Pays Basque, annonce du procureur de la République de Rennes. Et puis les félicitations d'Emmanuel Macron à l'équipe de France de tennis. Revenu d'Australie avec la Fed Cup, les Bleus reçus à l'Elysée. Vous êtes de grandes dames, affirme le président et qualifie Julien Beneteau de très grand capitaine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous avons consacré hier soir une large part des informés à la manifestation contre l'islamophobie. Le thème de la laïcité est désormais dans le débat public. Faut-il interdire les listes communautariste aux élections municipales? Question soulevée par deux poids lourds des Républicains reçus place Beauvau ce matin, Xavier Bertrand et Bruno Retailleau, relayés par Damien Abad dans l'hémicycle. La question du président du groupe LR à l'Assemblée nationale et la réponse du Premier ministre Édouard Philippe.
La lutte contre le fondamentalisme religieux et l'islam politique ne laisse pas de place pour le « en même temps ». Et nous attendons de vous des actes clairs et des réponses concrètes. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous si oui ou non vous allez rétablir la laïcité partout sur le territoire de la République. Dites-nous si oui ou non vous êtes prêt à interdire les listes communautaristes dès les prochaines élections municipales.
Encore une fois, la laïcité, c'est pas quelque chose qui viendrait en plus, ça n'est pas un supplément d'âme, c'est la condition à laquelle nous pouvons vivre ensemble, alors que nous ne sommes pas identiques, alors que nous ne croyons pas à la même chose, mais que nous respectons la loi, et que l'État et les collectivités territoriales ne se mêlent pas de la religion, ne se mêlent pas des confessions. Toute la loi, rien que la loi, et vous nous aurez toujours sur cette position, Monsieur le Président Abad.
Alors Yasmina Jaffar, oui ou non, faut-il interdire ces listes communautaristes? Et il faut se dépêcher parce que les élections approchent.
Oui, hein. Ça va très très vite. D'un point de vue constitutionnel, je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir faire pour les interdire. Et puis surtout, qu'est-ce qu'une liste communautariste?
Alors, le gouvernement n'y est pas favorable à la démarche. Hein. Du moins, c'est réclamé par l'opposition, par
les
Républicains.
Mais si dans les programmes, il y a de façon inscrite, de façon très claire, des choses qu'ils vont totalement à l'encontre de la République et de la démocratie, je veux bien, mais ils sont assez malins pour ne pas justement rentrer dans ce piège-là. Donc, quand Xavier Bertrand a donné cette interview au JDD, vous vous rappelez, où il avait un ton beaucoup plus dur que d'habitude, Emmanuel Macron a donné, lui, une interview à Valeurs Actuelles, et ça a damé le pion. Comme si Emmanuel Macron n'avait pas envie que Xavier Bertrand puisse atterrir
occupe
dans
cet
le débat
espace-là.
Public.
Oui.
Voilà. Et là, Xavier Bertrand et Monsieur Retailleau semblent chercher une autre porte. Le JDD excite, donc on va sur les listes communautaires. Vendredi, c'était les listes communautaires et ce matin, c'était l'islam politique. Donc, est-ce qu'on confond Christine Boutin? Enfin voilà, est-ce qu'on confond tout? Est-ce que le parti chrétien, est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est qu'une liste communautaire? Est-ce qu'on parle de l'islam politique? Si c'est le cas, alors il faut appeler un chat un chat et ne pas chercher une fenêtre d'exposition pour Xavier Bertrand avec la pensée de 2022, parce que là, c'est visible.
Albert Zenoué, est-ce que c'est réalisable, au fond, de barrer la route à des listes qui seraient susceptibles d'être considérées comme, je prends des précautions oratoires, communautaristes?
Alors, Bruno Retailleau, qui est aussi à la manœuvre avec Xavier Bertrand, dit avoir la parade et avoir une parade constitutionnelle pour empêcher la lutte communautariste. Il l'a dit dans le Figaro la semaine dernière, en se basant à la fois sur la Constitution, sur le code électoral, sur la haute autorité de la transparence de la vie politique. Ouais. Il a déposé une proposition de loi donc en ce sens. Donc il a été reçu aujourd'hui ce matin par Castaner en présence de Xavier Bertrand d'ailleurs, qui lui aussi Castaner s'est dit un peu sur la même ligne. Tout le problème, c'est est-ce que ce sera juridiquement et acceptable. Je pense qu'il est important. Il y a un vrai risque de dérive communautariste. Il y a un vrai risque de d'élection, si ce n'est de maire, en tous les cas de conseillers municipaux, qui pourraient être là pour le coup dans de l'islam politique. Mmh. C'est vrai. Alors il y a pour le coup le gouvernement et l'exécutif est très sensible à ce problème. Mmh. Ça fait plusieurs mois, même plusieurs années, que il se dit très attentif à ça. Moi, j'ai eu des discussions discussion avec des gens de l'exécutif et qui redoutent énormément l'élection de liste, en tous les cas, la présence de liste communautaire.
Aurélie Motarivé, la vraie cible, au fond, c'est l'islam politique, le vrai sujet.
Moi, j'ai du mal à voir, sincèrement, je trouve ça très complexe, s'il s'agit ici d'un débat électoraliste ou d'une vraie question de fond sur notre modèle républicain, parce que je crois que le Premier ministre...
C'est un peu des deux.
Voilà, c'est un peu, il y a un mélange des deux, donc c'est
assez complexe. François Hollande a gagné avec les voix des musulmans, on le sait maintenant. Donc c'est une
très complexe.
Chasse, une chasse, mais vous avez raison.
Le Premier ministre vient de le rappeler, la République est laïque, elle est une, indivisible, et c'est évidemment très important, mais elle se nourrit aussi de sa diversité, donc je trouve ça très compliqué comme sujet.
Bruno Cotterêts, vous allez conclure sur la question. Est-ce qu'il y a, au fond, en ligne de mire, cet islam politique qui interroge ?
Je pense que c'est un peu le cœur du débat dans lequel on est, si on peut... qualifier ça de débat, parce que je trouve que les termes d'un débat public sur ces questions ne sont pas très bien posés. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on n'arrive pas à s'extraire de la question de l'islam, effectivement. Alors, si on veut reparler de la laïcité en France, il faudrait à ce moment-là parler de toutes les confessions, de toutes les religions. Effectivement, on a eu une vie politique où il y a eu des partis chrétiens-démocrates. Effectivement, on rappelait le cas de Christine Boutin, elle a même siégé au gouvernement. Donc je trouve que les termes du débat ne sont pas bien posés en ce moment. Le débat, je trouve, est non seulement mal emmanché, je trouve que ce débat a même une forme de toxicité aujourd'hui qui est un peu paroxystique. On voit quand même que les termes du débat se crispent, et donc moi j'en appelle à peut-être à prendre le temps de réfléchir,
un petit peu de recul,
de lire, de réfléchir avant des déclarations politiques intempestives.
Oui. Albert Zénou, la une du Figaro demain.
L'État impuissant face à la surpopulation carcérale.
L'univers carcéral à la une et la surpopulation du Figaro. Avec vous, Yasmina Jaffar, la Ruche Média.
La précarité de la vie étudiante.
Des étudiants dont nous avons parlé en ouverture des Informés de France Info. Merci Yasmina Jaffar, merci Aurélie Motarivé, Albert Zénou et Bruno Cotterêts d'avoir participé à ces Informés de France Info. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute prochaine édition sur France Info.